Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'ONU Info Genève. Cette semaine, le Palais des Nations accueille la 12e session du mécanisme d'experts chargé de la question du droit au développement. Alors que l'on s'apprête à marquer en 2026 le 40e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement, les discussions portent sur un enjeu central: comment faire de ce droit une réalité pour toutes et tous, en le reliant aux grands défis d'aujourd'hui, des transitions climatiques et numériques, à la gouvernance, au financement du développement et à la participation du public. Pour évoquer ces différentes thématiques, notre invitée est Isabelle Durand, membre du mécanisme d'experts. Isabelle Durand, bonjour.
Bonjour.
Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en quelques mots, quels sont les objectifs de ces réunions qui ont lieu en ce moment au Palais des Nations sur le droit au développement ?
Alors, d'une part, ça va être bientôt le 40e anniversaire de la fameuse déclaration sur le droit au développement qui ne s'est pas traduit nécessairement dans les faits de façon tout à fait satisfaisante. Et donc, c'est l'occasion, à l'occasion de ce 40e anniversaire, de faire un peu le bilan. Où en sommes-nous en matière de droit au développement ? Est-ce que le monde d'aujourd'hui, qui est très différent de celui de 1986, comment est-ce qu'il aborde ces questions ? Comment est-ce qu'il répond aux nouveaux enjeux, que ce soit la question digitale, la question climatique, qui ont pris une proportion beaucoup plus importante qu'il y a 40 ans ? Donc, on fait un peu le point, si je peux dire, sur où on en est en termes de droit au développement et qu'est-ce que ce mécanisme d'experts peut faire ou à quoi peut-il contribuer pour faire avancer les choses.
Et justement, où en est-on 40 ans après sur ce droit au développement ?
Alors, il y a des choses qui ont effectivement bougé en 40 ans. C'est clair que c'est pas seulement lié au mécanisme d'experts, qui n'a d'ailleurs pas 40 ans, mais qui sont liés à toutes sortes de phénomènes économiques. Mais ce qu'aujourd'hui on constate, c'est qu'on doit transformer cette déclaration vis-à-vis des enjeux d'aujourd'hui. La question du climat, qui est une menace planétaire, pour tout le monde, nous amène quand même à de grandes asymétries entre à la fois les pays les plus affectés et les moins responsables. Comment est-ce qu'on adresse la question du financement climatique aujourd'hui, alors que l'aide au développement diminue à peu près partout dans tous les pays développés, alors qu'aujourd'hui on a la question des tarifs en commerce qui viennent ajouter une couche de chaos et de difficultés pour les pays les moins développés, mais aussi les plus impactés par le changement climatique. Donc tous les instruments qu'on peut mettre en place en termes de finances climatiques sont bons à étudier. On en a étudié l'un d'eux hier, qui est celui des marchés du carbone et du prix du carbone. Est-ce que c'est, oui ou non, et à quelles conditions, un outil parmi d'autres pour financer la transition climatique ? Et puis, on a la transition digitale, évidemment, ça n'existait pas il y a 40 ans. On est dans un enjeu énorme, à la fois, bien sûr, d'accès à la technologie, les matériaux critiques, toutes ces terres rares qui, pour beaucoup d'entre elles, se trouvent dans le sous-sol des pays en développement, mais qui sont utilisées par les pays développés. Quelle est la manière de rémunérer ceux qui vendent ces terres rares et surtout qui les transforme, parce que le problème de ces économies, c'est qu'elles sont souvent exclusivement à vendre de la matière première et pas en avoir le bénéfice de la transformation. Donc, toutes ces questions-là, qui ne se posaient pas de cette manière-là, en tout cas il y a 40 ans, doivent être aujourd'hui notre préoccupation. Est-ce qu'on a fait des progrès en 40 ans ? Oui, en termes de développement, certainement dans certains pays, mais depuis, je dirais, quelques années, on a une espèce de bouleversement, si je peux dire, la multiplication des crises, la crise climatique, les aspects digitaux, la pandémie, évidemment, qui nous a fait reculer en matière de mise en œuvre des objectifs du développement durable. Donc, on est dans un moment beaucoup plus critique aujourd'hui et où, en plus, la décolonisation s'invite à la table comme une préoccupation beaucoup plus grande pour des populations du Sud, qui amène à une difficulté de relation entre pour la coopération et pour les synergies qu'on devrait avoir.
40 ans plus tard, quand on écoute quand même pas mal d'experts qui sont intervenus durant ces réunions, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine frustration sur le fait que ce droit au développement n'est pas assez reconnu aujourd'hui, en tout cas qu'il n'a pas eu assez de progrès.
Mais c'est-à-dire qu'il y a deux chemins pour y arriver. Il y a un chemin qui est le chemin de la mise en œuvre étape par étape, pays par pays, dans les législations, dans les pratiques. Et puis, il y a la question du droit. Et on est quand même dans un forum qui est lié au Conseil des droits de l'homme. Et donc, il y a aujourd'hui sur la table, à New York, pas à Genève, un projet de traité sur le développement, sur le droit au développement, qui deviendrait, dès lors, s'il est adopté, un traité qui établit du droit international. Et je pense qu'il est important qu'au moins ce soit discuté à New York. et adopté sans doute, je ne sais pas quand, certains espèrent que ce soit justement à l'occasion du 40e anniversaire, donc cette année ou début de l'année prochaine. Mais quand bien même ce traité serait adopté, c'est pas la fin de l'histoire. Enfin, je veux dire, le développement, c'est un processus qui dépend d'énormément de facteurs à la fois économiques, sociaux, climatiques, etc. Et donc, même si on a un traité, et c'est une bonne chose qu'il en existe un, ça reste quand même un travail qui revient à la fois aux populations locales. Alors, c'est vrai qu'on pense toujours, quand on discute de droits humains, aux personnes les plus marginalisées, aux peuples autochtones, etc. C'est important, extrêmement important que ces populations marginalisées ou dans les zones rurales soient intégrées au processus. Mais de l'autre côté, on a aussi des progrès démocratiques à faire en termes de rôle des gouvernements, de contrôle des gouvernements, de lobbying des grosses entreprises, de contrôle sur les chaînes de valeur. Tout ça fait aussi partie du développement.
Quels sont les principaux freins finalement à cette reconnaissance globale du droit au développement? On voit que les pays européens ont du mal à reconnaître ce droit. Quels sont finalement ces principaux freins?
Mais je pense qu'il y a d'une part un débat de juristes, mais enfin sur la question des droits individuels et des droits collectifs. L'Union européenne a une vision des droits humains qui est une vision individuelle, c'est-à-dire un individu versus son gouvernement qui peut se plaindre si ses droits d'individu sont violés. Les pays du Sud ont une vision beaucoup plus collective. C'est le droit des communautés. Et donc, dans cette vision collective, le droit au développement prévoit d'ailleurs une obligation de coopérer et surtout ce qu'on appelle la self-determination en anglais, donc le fait de pouvoir souverainement décider ce qu'on fait de l'argent de la coopération. Et ça, évidemment, ça pose ça pose question aux pays, entre guillemets, donateurs ou aux pays partenaires qui, d'une part, ne sont pas tellement ouverts au droit collectif parce qu'ils ont une vision plus sur le droit individuel, alors que le droit au développement, c'est les deux. C'est à la fois individuel et collectif. Et d'autre part, évidemment, ça créerait des obligations et donc aussi éventuellement une jurisprudence si ce droit devenait un traité et donc pourrait amener à des États à se plaindre ou à faire des recours contre le fait qu'on ait violé ce traité, qu'on n'ait pas rempli ses obligations de coopération. Donc c'est un sujet extrêmement sensible, surtout dans une relation Nord-Sud qui est aujourd'hui encore plus difficile qu'elle n'était il y a 10, 15 ou 20 ans.
On voit les sujets, mais vous le dites, sont très complexes. Hier, vous l'avez dit, vous avez animé une table ronde sur la question du financement et notamment l'histoire de la taxe carbone qui est reconnue par l'accord de Paris. Quels sont les enjeux de cette taxe carbone aujourd'hui?
Alors évidemment, dans un monde idéal, on devrait avoir une taxe carbone pour tout le monde, point à la ligne, et comme tout le monde serait traité de la même façon, on n'aurait pas de problème et on aurait de la décarbonation partout. Bon, ça marche évidemment pas comme ça, puisque les taxes carbone sont proposées, voire imposées par des pays développés, en l'occurrence singulièrement l'Union européenne, qui veut avancer sur la fameuse CBAM, donc c'est l'ajustement aux frontières en termes de carbone pour des matériaux qui viennent des pays extérieurs, donc le ciment, l'acier, les engrais, enfin certains des produits les plus polluants et les plus émetteurs. Mais évidemment, ce faisant, quand on décide ça à Bruxelles, on ne tient pas nécessairement en compte le fait que pour ces pays, passer de là où ils sont maintenant à produire quelque chose de façon écologique est extrêmement compliqué, prend du temps et prend de l'argent et des ressources. Or, il faudrait donc qu'une taxe carbone permette de financer et d'aider à financer la transition. Sinon, ce n'est pas juste, évidemment. De l'autre côté, les parlementaires européens, et j'en parle d'autant plus à l'aise que j'en ai été, sont ceux qui, élus au niveau européen, poussent l'Union européenne, enfin pas tous, mais certains poussent l'Union européenne à en faire plus en termes de Green Deal, le pacte vert, regrettent quand ce pacte vert est mis en danger. Et donc, eux, évidemment, ils sont élus à une échelle européenne. Donc, pour eux, c'est avant tout qu'est-ce que l'Union européenne fait ou ne fait pas en matière verte. De l'autre côté, les pays en développement disent, mais enfin, c'est du protectionnisme. Vous nous mettez une taxe qui nous empêche d'avoir accès à votre marché. Donc il y a là un dialogue qu'il faut reprendre, ce qui n'est pas simple, pour arriver à une taxe carbone qui soit juste. Et la question de la transition climatique, c'est justement, est-ce qu'elle est juste ou pas?
Vous avez aussi animé ce matin une table ronde sur la participation du public à ces politiques de développement. On le voit, c'est aussi un sujet difficile parce que quand on parle de participation au-delà des mots, ça veut dire aussi, par exemple, ce matin, il y avait des débats sur les grands territoires, sur des choses comme ça. C'est aussi une thématique très importante.
Ah oui, d'ailleurs, c'est une pierre angulaire du droit au développement, c'est la participation et la capacité des populations elles-mêmes à décider. Ce qui est évidemment un beau principe, mais le mettre en œuvre est un peu plus compliqué. Vous l'avez dit et on l'a entendu ce matin, quand on est l'Indonésie ou Fidji et qu'on a un territoire avec 3000 îles, c'est un peu plus compliqué d'organiser la participation quand on a des langues et des dialectes qui sont la clé de la participation, sinon on ne se comprend pas. Mais au-delà même des langues ou de territoires, se pose la question de quand la participation commence. Est-ce qu'elle commence au début, quand on établit un plan national de développement, quand on veut mettre en œuvre une infrastructure, un projet qui pourrait avoir un impact environnemental ou social? Est-ce qu'on le fait au début? Comment est-ce qu'on informe convenablement les populations pour qu'elles puissent participer en ayant toutes les infos et en ayant toutes les mêmes infos, ce qui est déjà en soi un enjeu? Et puis, comment est-ce qu'on les pouvoirs publics sont redevables après d'avoir pris en compte ou pas? Et si pas, pourquoi ne l'ont-ils pas pris en compte, les recommandations qui venaient de la part des citoyens? Et enfin, comment est-ce qu'on évite que ce processus soit instrumentalisé par des lobbies, par Dieu sait quel groupe de population qui a d'autres intérêts? Parce que faut pas croire que toute la population pense partout la même chose. Les gens défendent leur territoire, mais sur un même territoire, il peut y avoir aussi pas mal d'enjeux ou de potentiels conflits. Donc, on a beaucoup discuté aussi de la culture de la participation. Comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui n'est pas juste, comme on dit, hein, mettre une petite croix dans une case, on a fait une consultation ex poste, les gens ont dit oui ou non, et voilà, point à la ligne. Comment est-ce qu'on développe, et ce n'est pas évident du tout, que ce soit dans des pays développés ou dans des pays en développement, comment est-ce qu'on développe une culture de la participation?
Alors, on a déjà évoqué entre les lignes hein, le contexte très compliqué du multilatéralisme aujourd'hui, des relations internationales. Vous travaillez depuis beaucoup d'années hein, dans ce domaine, en étant à la CNUSED, au Parlement européen. Est-ce que malgré ce contexte, vous voyez des sources d'optimisme, d'espoir par rapport à la situation et par rapport au développement justement de ce droit au développement ou plus globalement du multilatéralisme?
Ben, il faut dire que c'est vrai que la situation d'aujourd'hui n'est pas simple. C'est pas pour ça qu'elle a été à d'autres moments, peut-être parfois de façon moins globale qu'aujourd'hui, mais le multilatéralisme a déjà connu des moments compliqués. Celui-ci en est un particulièrement. Mais c'est pas pour ça qu'il est dévalorisé ou qu'il perd tout intérêt d'être maintenu, non seulement maintenu en vie avec un, je dirais, pour en survie, mais surtout d'être exploité ou utilisé de la meilleure façon possible. Et en ce sens, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans des alliances ponctuelles sur des sujets donnés. Pas nécessairement sur les sujets les plus sensibles sur lesquels on voit bien que l'accord est difficile. Par ailleurs, le multilatéralisme et l'ONU singulièrement sait très bien qu'on doit réformer l'organisation, qu'on doit réformer le Conseil de sécurité. Mais tout ça, ce sont les décisions de l'Assemblée générale dans un contexte où évidemment, il n'y a pas nécessairement consensus sur tous ces points. Donc, je pense qu'il faut vraiment continuer de travailler sur des sujets concrets pour démontrer la faisabilité et l'intérêt de travailler ensemble. Les grands traités sur le plastique, même s'il a échoué récemment, c'est pas la fin de l'histoire. La question du plastique reviendra. Le problème, c'est qu'on va pas assez vite, c'est qu'on perd du temps, beaucoup de temps. Enfin, on perd. Peut-être qu'on ne le perd pas, mais en tout cas, on le gagne pas non plus pour arriver à des solutions qui soient réellement multilatérales ou collectivisées. Mais je pense qu'il faut garder ce chemin. C'est d'ailleurs le seul qui est possible.
Isabelle Durand, un grand merci de répondre à mes questions. Et c'est la fin de cette édition. À la préparation, il y avait Samia Daou et Juliette Schnebelen. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte X en français ONU Genève. À très bientôt.